Deuxième partie de notre entretien avec les membres de l'expédition scientifique de l'unité Ecobio de Paimpont et du dessinateur Daniel Alexandre. Ces derniers ont pris part à une expédition au parc d'Odzala en République du Congo, 8 mois d'immersion en forêt équatoriale sur les terrains de la recherche scientifique afin d'observer les interactions des gorilles dans leur milieu naturel. Découvrir par le regard du dessinateur le travail des scientifiques sur le gorille, tel est le pari de l'exposition des gorilles et des hommes, visible gratuitement au diapason sur le campus de Beaulieu de février à avril 2016.
Est-ce que dans ce cabanon, vous aviez un poste attitré? Vous étiez, par exemple, bah, vous, j'imagine que monsieur Alexandre, vous étiez assis bien sagement à dessiner.
Oui, non, en fait,
Daniel Alexandre, dessinateur.
En quelque sorte, c'était effectivement de ne gêner à aucun moment le travail des scientifiques, ce qui m'arrangeait assez, puisque de toute façon, moi, mon travail consistait à observer les gens qui sont payés pour observer les animaux. Enfin, j'observais aussi les animaux, mais dans un affût comme ça, en général, il y a effectivement les scientifiques qui attendent les animaux, mais qui observent pas que les gorilles. Ils font aussi beaucoup de relevés ornithologiques avec les oiseaux. Dès qu'il y a des éléphants, ils sont notés. Les buffles, Mariana qui était là, qui était une stagiaire à l'époque quand j'étais, était aussi chargée en partie de relever tout ce qui se passait au niveau des buffles, parce qu'il y a des buffles un petit peu particuliers. Et puis dans l'affût, donc, on avait aussi ce qu'on appelait des éco-moniteurs, c'est-à-dire des assistants de recherche congolais, salariés par le parc, qui sont là à la fois pour apprendre au contact des scientifiques, les scientifiques ayant ce rôle-là pour le parc, d'instruire et de former les gens, mais aussi nous protéger quelque part. Ce sont de très bons pisteurs qui aident pour les relevés de crottes, par exemple. Même si j'ai vu des gens comme Céline, qui au bout de plusieurs années, j'étais assez épaté de la voir me montrer un petit bout de branche, une empreinte, des choses que, bon, si on ne connaît pas, on ne peut pas les voir, quoi. Et donc dans l'affût, oui, on avait ce petit monde-là pour différents types de travaux, sachant que la tâche principale des scientifiques, c'était pour le coup l'observation des gorilles.
Vous comptez y revenir dans un proche avenir ?
Oui, nous espérons bien continuer encore pendant quelques années.
Nelly Ménard, chercheuse au CNRS, spécialiste en primatologie et en écologie.
Des observations sur ces populations-là, parce que au bout de 15 ans, finalement, on commence tout juste à avoir quelque chose de vraiment très, 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 très intéressant, sachant la durée de vie du gorille. Là, il y a des individus qu'on a vus naître, entre guillemets, et qui abordent l'âge adulte. Donc là, ça devient vraiment très, très intéressant. Mais c'est les difficultés de travailler sur des espèces qui maturent lentement. Ça ne peut être qu'une question de temps, après, pour répondre vraiment aux questions qu'on se pose.
Quel a été l'impact du virus Ebola sur les gorilles, leur croissance ?
Il y a eu, on parle d'une épidémie qui a eu lieu en 2004 au sein du parc. Ça surprend.
Pascaline Legoire, maître de conférence à l'université Rennes 1, spécialiste en dynamique et en génétique des populations.
Donc l'impact, il a été très rapide et visible très vite. Donc une des populations qui était suivie avait une forte densité, environ 400 individus identifiés. Et en quelques mois, on est tombé à 38 individus identifiés. Donc une très forte mortalité. Ça surprend parfois les gens, mais effectivement, les gorilles sont aussi sensibles, voire plus sensibles que les humains au virus Ebola, puisqu'ils n'ont aucun traitement. Donc il y a une très forte diminution de la densité. Comme c'est une maladie qui se transmet par le contact, c'est les groupes sociaux qui ont été touchés le plus fortement, c'est-à-dire principalement les femelles et les jeunes. Donc on a un gros déséquilibre ensuite dans la population au niveau de la structure sociale et de la structure en âge également. Donc il y a eu cette forte perturbation comme ça, cette diminution, et là ce qu'on observe, c'est la reconstruction de la population qui est assez lente, mais qui se fait quand même. Donc là, on est à 55 ou 57 individus identifiés. 10 ans après l'épidémie, on a une toute petite augmentation grâce aux mâles solitaires qui ont survécu, qui peuvent attirer des femelles aux alentours et reformer des groupes et ainsi de suite. Mais un petit gorille va mettre pour les femelles 8 ans avant de pouvoir se reproduire et pour les mâles presque 15 ans. Donc c'est très long pour voir cette reconstruction. Donc si par-dessus on a des facteurs comme du braconnage, comme de la déforestation qui agit, forcément les populations sont fragilisées. Donc ce qu'on a observé a priori, c'est que l'épidémie n'a pas été homogène sur tout le parc. Il a touché certaines populations. Donc là, on a encore des questions à résoudre pour savoir pourquoi ces populations en particulier. Peut-être
quel a été l'impact ?
Une question de densité, une question de fructification des arbres à un moment particulier, etc. Donc c'est finalement presque une chance puisque les populations non touchées vont permettre d'aider les populations qui ont été touchées à se reconstruire. Donc on étudie tout ça. Il y a eu un fort impact vraiment démographique. D'un point de vue génétique, pour le moment, la diversité reste assez bonne, mais il y a un changement de distribution des gènes. Donc il faut aussi qu'on analyse ça en précision. Mais il y a forcément un impact sur le long terme qu'on pourra avoir dans encore quelques dizaines d'années.
Et la question de la déforestation, les feux de forêt, n'anéantissent pas ces progrès-là ?
On est dans un parc où les exploitations sont limitées, mais aux alentours, en fait, tout est lié, puisque quand il y a exploitation forestière, il va y avoir construction des routes qui vont amener les braconniers à circuler plus facilement, également les hommes à circuler plus facilement, à amener leur virus, etc. Donc c'est un peu un engrenage. Donc sur nos populations, on peut dire qu'on n'a pas de grands enjeux de déforestation. Je me tourne vers Nelly pour être sûre.
Non, parce qu'on est assez central dans le parc déjà. Et c'est un parc national, donc qui est quand même protégé de ce point de vue-là. La pression, elle est en bordure de parc malgré tout, dans certaines parties limitrophes du parc où on sent qu'il y a une pression et une volonté d'introgression. Et la protection, elle est aussi en dents de scie en fonction des financements qui arrivent pour gérer le parc. Donc c'est assez complexe.
On va devoir évoquer la question du braconnage. Est-ce que c'est une pratique qui est encore très présente ? Est-ce qu'elle tend à devenir malheureusement de plus en plus courante ? Ou alors est-ce qu'il y a une tendance inverse ? Est-ce que vous avez par exemple assisté à des cas de braconnage ?
De tir et de capture, non. Mais pour l'anecdote, quand je suis sorti de forêt, c'est le terme consacré, quand j'avais fini ma mission, je suis arrivé sur le village pour regagner Brazzaville et il y avait un pick-up des gardes de la lutte anti-braconnage qui avait visiblement fait une prise dans un véhicule de braconniers dans lequel, alors ils n'avaient pas capturé les braconniers, ils s'étaient enfuis avant. Mais il y avait des sacs en toile de jute qu'ils ont déversés sur la place publique pour montrer leur prise. Et c'est une manière aussi d'impacter et de montrer qu'ils font leur boulot. Il y avait des bouts de bras et de bouts de jambes de gorille. Là, on parle du braconnage du gorille, mais l'essentiel du braconnage, c'est quand même l'éléphant. C'est l'ivoire. C'est encore un trafic qui, motivé par de loin le marché asiatique, on va dire, de façon générale, où il y a beaucoup d'entreprises aussi sur le continent africain, par exemple au Congo, Brazzaville. Et tant qu'il y aura des acheteurs, il y aura du braconnage. Je sais qu'en Europe, ce trafic-là est maintenant interdit, mais ce n'est pas interdit partout sur la planète. C'est des choses courantes et ça se voit bien parce que dans le parc d'Odzala Kokwe, où les scientifiques font leurs observations, qui est co-géré en partie par African Parks, ils ont monté une milice de gardes armés, militaires, il y a une centaine de gardes, et ils sont armés assez lourdement parfois, parce que les braconniers le sont aussi. Et je dirais qu'un des dangers pour un promeneur imprudent en forêt, c'est pas tant l'éléphant et le gorille, ça serait plutôt le braconnier lui-même, qui ne doit sûrement pas s'embarrasser d'un témoin gênant dans des cas comme ça. Mais après, la viande de brousse est interdite. On parlait du braconnage, on parle de l'éléphant surtout, du gorille aussi, mais quantité d'autres espèces, tout simplement pour des raisons alimentaires. Mais ça impacte sur les espèces protégées, parce qu'on est sur une zone où la notion de conservation est forte et nécessaire. Donc voilà.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère. Gare au gorille. Patron de la ménagerie crie t'es perdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fife des deux fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du singe en rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare au gorille. Bah, soupirait la centenaire qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pense c'est impassible qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Gare au gorille. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille qui sera l'objet de mon choix. Gare au gorille. Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Gare au gorille. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Gare au gorille.
Le Labomatique,
l'émission scientifique de Radio Campus Rennes.
Le gorille est un animal rapide, parce que ça peut peut-être influer sur beaucoup de choses.
Rapide pourquoi ?
Pour se déplacer.
Pour se déplacer. Alors, sur place, j'ai pas vu d'individus courir. Si, à un moment donné, il y a eu un mouvement de panique, j'ai pas l'impression qu'il soit très rapide. Moi, j'ai l'impression qu'il est de toute manière plus rapide que moi, ce qui a tendance à m'inquiéter. Oui, je pense qu'il peut être assez rapide, mais c'est pas son mode de locomotion privilégié, d'après ce que j'ai vu, quoi. Il faut voir aussi que les milieux dans lesquels il évolue, c'est pas non plus du bitume, hein. C'est la forêt, c'est des zones marécageuses, même en forêt. Bon, c'est dense, hein. C'est une forêt équatoriale, c'est très dense. D'ailleurs, nous, on a emprunté des sentiers qui étaient pratiqués depuis des années, mais à chaque fois, il faut rouvrir la piste un petit peu, voire même d'un jour sur l'autre, parce que... une pluie a été violente, que des branches, ou etc. etc. Donc non, c'est des milieux où les animaux marchent. Ouais. Des guépards, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas leur milieu, mais c'est pas un individu très rapide. Non.
Est-ce que vous leur avez donné des prénoms à certains? Si vous avez eu l'habitude de les voir, vous êtes familiarisé avec certains?
Oui, Sergio.
Pourquoi Sergio?
Alors, en fait, chaque mâle de harem a un nom selon qui est donné par les personnes qui observent à ce moment-là, la première fois, le groupe. et qui donne un nom. Donc chacun a ses...
Je crois qu'il y en a qui s'appelait Tyson parce qu'il avait un morceau d'oreille arraché. Voilà.
Les critères très variés selon les motivations de la personne qui observe au moment de la découverte du groupe, la première fois qu'on l'observe. Voilà.
Ah, c'est un peu comme la découverte de Lucy avec la fameuse chanson des Beatles, quoi.
Elles développeront sûrement, mais à force de les connaître, les scientifiques sont capables visuellement déjà. Bon, évidemment, ils ne se contentent pas que de ça pour être sûrs de rencontrer les bons individus. Mais ils ont des trombinoscopes hein, avec des photos, des indications, des petits schémas qui permettent de donner des noms aux individus. Forme du nez, une cicatrice là ou pas, ou etc. Et oui, je parlais de Sergio parce qu'on m'avait montré des vidéos et je l'ai vu. J'étais assez ému parce que c'est un bon gros pépère, un vieux gorille maintenant, parce qu'il a une petite trentaine d'années, je crois. Ce qui est déjà pas mal pour un gorille. Et c'était génial parce qu'il a un groupe assez dense, il a un harem bien constitué. C'était un des groupes les plus impressionnants en termes d'effectifs. J'aimais bien le voir, déjà par son caractère nonchalant, un peu moins massif que d'autres, mais tranquille. On voyait qu'il avait un caractère très différent. Et c'était passionnant de voir autour de lui toutes les tranches d'âge, en fait. Parce que le groupe était assez gros, donc il y avait pas mal de femelles, certaines plus vieilles que d'autres, et pareil pour les jeunes. Donc avec un beau gros pépère comme Sergio, on a une belle image de ce que peut être un gorille, l'espèce du gorille, quoi. Voilà.
C'est dommage qu'on puisse pas voir à quoi il ressemble. Ouais, hein. Alors, il y a un écran juste à notre gauche. Bon, là, il est parmi les autres.
Vous allez le voir.
Vous pointez du doigt.
Vous allez le reconnaître tout de suite. Les petits gorillons. On a essayé de balayer comme on pouvait, comme ça, la saline en zoomant. Voilà, de droite à gauche. On voit des individus qui pataugent un petit peu, essayent de brouter quelques herbes comme ça. Et on voit tout de suite un individu beaucoup plus gros. Un dos argenté. Argenté, tout simplement, c'est un individu qui fait peut-être à peu près 200 kilos, à peu près. 200-250 kilos.
C'est une belle bête. Il n'a pas l'air très pressé.
Non, il n'a pas l'air très pressé. Et par exemple, là, on voit son œil gauche, il y a une petite tache blanche qui, est, de souvenir, est un indice que les scientifiques utilisent pour le reconnaître parmi d'autres indices. Mais voilà, c'est une cicatrice par rapport à une maladie de peau, je crois.
Il est très beau avec son dos argenté, c'est le seul qui a un dos argenté d'ailleurs.
Sur le groupe, vous ne pouvez pas le louper. Le propre du leader du mâle adulte reproducteur qui est le chef de son harem, comme ça, c'est un mâle adulte reproducteur et généralement, quand ils sont à un âge de reproduction, ils changent de poil et ils sont pour certains gris clair du derrière de la tête jusqu'au haut des cuisses, quoi. Voilà.
Espérer qu'ils vivent jusqu'à quel âge?
Alors ça, je vais laisser répondre les scientifiques, mais je crois que c'est 35 ans à peu près, oui, la moyenne.
Oui, 35 ans à peu près. Oui.
We'll be right back.
On va parler de l'exposition, parce que je vais vous trépigner d'impatience pour qu'on parle de l'exposition.
Oui, je pense que, évidemment...
Marie-Aude Lefeuvre, responsable du service culturel de Rennes 1.
Proposer au public de venir la voir au Diapason, donc sur le campus de Beaulieu. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 20h le soir et le samedi de 14h à 18h. Donc elle sera seulement fermée sur le temps des vacances des étudiants. Donc l'idée, c'est que si des groupes souhaitent venir visiter, ils peuvent réserver auprès de services culturels donc de l'Université de Rennes 1, parce que nous avons un médiateur qui est présent sur tout le temps de l'exposition et qui peut proposer une visite guidée de l'exposition. Voilà.
Des gorilles.
Et des hommes.
Du 1er février au 29 avril
sur le campus de Beaulieu.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci. Merci.
Fin de la deuxième et dernière partie de notre entretien avec les acteurs de l'exposition des gorilles et des hommes. Nous remercions chaleureusement Daniel Alexandre, Nelly Ménard, Pascaline Legoire et Marie-Aude Lefeuvre pour leur disponibilité et leur gentillesse. L'exposition des gorilles et des hommes est visible gratuitement au Diapason sur le campus de Beaulieu Rennes 1 de février à avril 2016, du lundi au samedi. Le Labomatique, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les précédentes en différé sur le site radiocampusrennes.fr. À bientôt et n'oubliez pas de rester curieux.